Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manelakis à la présentation de cette édition du mercredi 18 août 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, l'attaque d'un convoi de la compagnie Shell fait 7 morts dans le sud-est. Le gouvernement du Niger décrète un deuil national de 2 jours après le massacre lundi de 37 civils dans l'ouest. Au Mali, un an après la chute d'Ibeka, le colonel Assimi Goïta promet des élections transparentes. À Kinshasa, le Parlement approuve la prolongation de l'état de siège à Nituri et au Nord Kivu. En Afghanistan, les évacuations se poursuivent dans des conditions difficiles à Kaboul. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Dans le sud-est du Nigeria, 7 personnes ont été tuées lundi dans l'attaque d'un convoi émanant des employés vers un site gazier de Shell. Les précisions de John Linda.
Selon le porte-parole de la police de l'État d'Imo, Michael Abadan, des hommes armés ont ouvert le feu sur un convoi de bus se rendant vers une usine de gaz Shell dans la région. « Nous avons perdu un policier et 6 employés dans l'attaque », a-t-il déclaré. SPDC, la filiale nigériane de Shell, a confirmé l'attaque par des hommes armés inconnus sur un convoi de bus amenant le personnel vers un site dans la région d'Ohaji. « Nous avons depuis fermé le site et l'incident a été signalé à la police ». Pour enquête, a déclaré la société dans un communiqué. L'attaque de lundi est survenue le jour même de la promulgation d'une nouvelle loi sur l'énergie visant à fournir aux compagnies pétrolières un cadre plus clair pour investir et travailler au Nigeria, ainsi qu'une meilleure répartition des richesses issues de l'exploitation du sous-sol.
Au Niger, le gouvernement a décrété un deuil national de 2 jours après le massacre lundi de 37 civils dans l'ouest du pays. À partir de ce mercredi, les drapeaux seront en berne sur tout le territoire national, indique un communiqué Nathalie Barge.
Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale, précise le communiqué. La dernière attaque dans l'ouest du Niger a visé lundi le village de Daredaï, près de la frontière malienne. Des hommes armés ont tiré sur des habitants qui cultivaient leurs champs, faisant 37 morts, dont 4 femmes et 13 adolescents. Tuer des enfants est une grave violation des droits humains, rappelle l'UNICEF, soulignant que c'est la 3e attaque dans ce village depuis le début de l'année. Daredaï, déjà visé en mars, est situé dans la région de Tillabéri, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Des groupes djihadistes y mènent des attaques contre des civils et des militaires depuis 3 ans. Human Rights Watch a estimé à plus de 420 le nombre de civils tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes à fuir cette région dite des trois frontières.
Pour Moussa Tchangari, une figure de la société civile au Niger, au Sahel, la guerre en cours ne peut pas être gagnée avec les mêmes armées étrangères qui ne l'ont pas gagnée en Afghanistan, mais aussi avec le même type de dirigeants corrompus. Le Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé il y a 1 an, jour pour jour, a connu depuis un second coup d'état militaire consacrant le colonel Assimi Goïta comme président de transition. Il s'est engagé à céder la place à des civils après des élections prévues en février 2022 qu'il n'a même pas évoqué mardi soir lors d'une allocution télévisée. Il s'est contenté de promettre des élections transparentes aux résultats incontestables. L'une des figures de la société civile au Burkina Faso, Pascal Zaïda, a été remise en liberté mardi, 3 jours après son arrestation pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, déclaration subversive et incitation à la rébellion. Pascal Zaïda a été longuement entendu par le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il a regagné son domicile en toute liberté et aucune charge n'a été retenue contre lui, a confirmé un leader de la société civile. Une filiale du groupe français Castel a apporté durant plusieurs années un soutien financier à des groupes armés en Centrafrique en échange de la sécurisation d'une usine affirmé un rapport publié mercredi par l'ONG The Sentry, évoquant un accord tacite démenti par l'entreprise. En République démocratique du Congo, le Parlement a approuvé la prolongation de l'état de siège imposé par le président Félix Tshisekedi le 6 mai en Ituri et au Nord Kivu de province de l'Est. Marius Murunga pour les détails.
Pour cette sixième prolongation, 334 députés sur 335 ont voté pour et une abstention afin d'accorder 15 jours supplémentaires aux administrateurs militaires qui ont remplacé les autorités civiles pour lutter contre l'insécurité et ramener la paix dans ces provinces où plusieurs attaques ont fait des milliers de morts. Depuis le début de l'état de siège, la violence a augmenté dans certaines régions de l'Est. Certaines des attaques ont été attribuées aux forces démocratiques et alliées ADF, l'un des multiples groupes armés qui opèrent dans le nord-est du pays. Selon la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kessé, qui s'exprimait devant le Parlement, des avancées ont été enregistrées sur le terrain par les forces de défense et sécurité pour justifier la prorogation. Le mouvement citoyen Lucha, lutte pour les changements, a demandé jeudi dernier la levée de l'état des sièges qui, selon lui, provoque une intensification de la violence et des attentes aux droits humains.
Le verdict attendu vendredi dans le procès pour terrorisme de Paul Rusesabagina sera annoncé à une date ultérieure, a annoncé mercredi l'autorité judiciaire rwandaise sur son compte Twitter, ajoutant qu'une autre date sera communiquée aux justiciables ce vendredi 20 août 2021. Un responsable gouvernemental libyen a été libéré lundi soir, environ deux semaines après son enlèvement à Tripoli par des hommes armés non identifiés. Irida Faraj Fraitis, chef de cabinet d'un des deux vice-premiers ministres de Libye, un de ses collègues, avait été victime d'un rapt le 2 août. En plein jour dans la capitale, selon la mission de l'ONU en Libye, le gouvernement n'a donné aucune indication sur l'identité des ravisseurs ni sur le sort du collègue de M. Fraitis. 7 personnes ont péri dans des crues qui ont touché Addis Abeba après des pluies torrentielles, ont annoncé mercredi des responsables éthiopiens. Des trombes d'eau se sont abattues mardi sur plusieurs quartiers de la capitale éthiopienne, submergeant des maisons et des véhicules. En Algérie, l'opposition indépendantiste kabyle a appelé mercredi à une enquête internationale sur les incendies meurtriers et le lynchage d'un jeune homme faussement accusé de pyromanie qui nie toute responsabilité dans les sinistres.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une campagne de rappel des vaccins anti-Covid de Pfizer et de Moderna sera lancée pour tous les Américains à partir du 20 septembre. Les Américains ayant reçu l'un de ces sérums pourront demander une troisième injection 8 mois après la deuxième à partir de la semaine du 20 septembre, ont annoncé mercredi de hauts responsables sanitaires, soulignant la poussée actuelle de l'épidémie liée au variant Delta dans le pays. En Afghanistan, les évacuations se poursuivent dans des conditions difficiles à Kaboul, tombée aux mains des talibans. Les Américains ont déjà fait sortir plus de 3200 personnes. Le point avec Abdulrahman Dia.
C'est un gigantesque pont aérien mobilisant des avions du monde entier qui est en place depuis dimanche à l'aéroport de Kaboul, pris d'assaut par des candidats à l'exil et dont les abords sont étroitement contrôlés par les talibans. Les États-Unis prévoient d'évacuer à terme plus de 30 000 personnes via leurs bases au Koweït et au Qatar. D'autres pays occidentaux ont aussi mobilisé des moyens pour évacuer leurs ressortissants, des diplomates et des humanitaires pour la plupart, ainsi que des Afghans qui ont travaillé avec eux. La France poursuit sa rotation d'avions militaires entre Paris et Kaboul via les Émirats. Dans la nuit de mardi à mercredi, 216 personnes, dont 184 Afghans de la société civile en besoin de protection, ont été exfiltrés vers Abu Dhabi, selon le ministre français des Affaires étrangères. Le Royaume-Uni a évacué 306 Britanniques et 2052 Afghans en toute sécurité, a annoncé Londres. Berlin a pour sa part accusé les talibans d'entraver l'accès à l'aéroport aux Afghans, alors que 10 000 d'entre eux qui ont collaboré avec l'armée allemande ou des ONG ou des membres de leur famille doivent être évacués selon la chancelière Angela Merkel. L'Autriche et la Roumanie ont également indiqué que leurs ressortissants et les Afghans qu'ils comptent évacuer rencontraient des difficultés pour se rendre à l'aéroport.
L'armée américaine a découvert des restes humains dans le train d'atterrissage de l'avion militaire qui avait été pris d'assaut lundi par des Afghans paniqués à l'aéroport de Kaboul, a indiqué mardi l'armée de l'air américaine qui a ouvert une enquête. L'enquête sera exhaustive pour nous permettre d'obtenir tous les faits sur cet incident tragique, a-t-elle ajouté dans un communiqué. L'Union européenne et les États-Unis se sont dit mercredi profondément inquiets de la situation des femmes en Afghanistan, appelant les talibans à éviter toute forme de discrimination et d'abus et à préserver leurs droits, selon une déclaration co-signée par 19 pays, dont le Royaume-Uni et le Sénégal. Les femmes afghanes, comme tous les Afghans, méritent de vivre en sécurité et dans la dignité. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nani Tetalani.
Au Togo, la plateforme industrielle d'Adesticopé vient de lancer les activités de son port sec en réceptionnant 4 premiers conteneurs. Situé sur le corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, le nouveau terminal est couplé à une zone de stationnement exclusivement dédiée aux véhicules de transport en provenance et à destination des frontières douanières, des régions économiques du pays et du port autonome de Lomé qui pourra être décongestionné. L'infrastructure a une capacité prévue de 12 500 conteneurs sur plus de 20 hectares, indique Togo First. 43 banques internationales se sont engagées sous la houlette de l'ONU pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 ou plus tôt. Tous les établissements signataires se sont engagés, entre autres, à aligner leur portefeuille d'investissement et de crédit avec cet objectif et à se donner des objectifs intermédiaires à 2030 au plus tard. Pour terminer, les prix des matières premières agricoles ont enregistré une hausse soutenue cette année, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires, en raison de l'insuffisance de l'offre en Amérique du Sud et de la forte demande de la Chine. Cependant, l'approvisionnement est suffisant pour la plupart des marchés mondiaux de produits alimentaires au regard des niveaux historiques et les prix devraient se stabiliser en 2022.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouedraogo est avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les différents groupes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, sont connus. Le tirage au sort a eu lieu hier à Yaoundé. Le Cameroun partage le groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Selon l'ancien international camerounais Rigobert Song, les Lions Indomptables peuvent déjà rêver des huitièmes de finale.
Face aux équipes qu'on va affronter, je pense qu'on peut déjà se dire que nous sommes déjà au moins qualifiés pour le deuxième tour.
Rigobert Song, ancien international camerounais. Dans le groupe B, on retrouve la Guinée, le Zimbabwe, le Malawi et le Sénégal, finalistes malheureux de la dernière édition. Pour Eladj Diouf, ancien attaquant sénégalais, les Lions Indomptables partent favoris et comptent bien atteindre de nouveau la finale de cette édition.
Le Sénégal aujourd'hui, c'est l'un des favoris. On se doit de respecter nos adversaires, d'être concentrés et surtout de jouer à fond le tournoi. Et vous savez bien que Algérie-Sénégal, c'est pas seulement une finale, c'est une belle finale. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les amoureux du football veulent revoir cette revanche-là du Sénégal sur l'Algérie.
Eladj Diouf, ancien attaquant sénégalais, la poule la plus relevée, c'est bien évidemment le groupe C, composé du Maroc, du Ghana, du Gabon et des Comores. Ghanéens et Marocains partent a priori favoris, mais Pierre-Emerick Aubameyang et les autres Panthères retrouvent la CAN après avoir manqué celle de 2019 et voudront donc réussir un vrai coup chez le voisin camerounais. Les Comores qui participeront à leur première CAN peuvent donc rêver d'un apprentissage douloureux qui se profile à l'horizon. Tirage au sort quelque peu équilibré dans le groupe D, avec le Nigeria et l'Égypte en favoris, mais attention au Soudan et à la Guinée-Bissau qui vendront cher leur peau. Dans le groupe E, les champions en titre, les Algériens, feront face aux Ivoiriens qu'ils ont sortis en quart de finale de la CAN 2019. L'Algérie est sur une folle série d'invincibilité de 27 matchs consécutifs sans défaite et fait peur surtout à la Sierra Leone et à la Guinée équatoriale qui bouclent la poule. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, ne se laisse pas emballer par l'Algérie et pense qu'il faut aussi faire attention aux autres équipes du groupe. Patrice Baumel.
Forcément, lorsque nous jouons l'Algérie, championne d'Afrique en titre, c'est un géant d'Afrique. Mais j'ai beaucoup de respect aussi pour la Guinée équatoriale et la Sierra Leone, puisque je les ai déjà joués dans le passé.
Patrice Baumel, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Comme en 2019, la Mauritanie, la Tunisie, le Mali partagent le même groupe. À eux se joint la Gambie qui découvre la CAN, elle qui est à sa première participation. Dans l'ensemble, le tirage au sort a formé des groupes plus ou moins homogènes, selon l'ancien international Didier Drogba.
Aujourd'hui, je pense que le tirage au sort est plutôt homogène. Forcément, il y aura des surprises, on espère tous, parce que toutes les équipes qui sont qualifiées ont un objectif.
Didier Drogba, ancien international ivoirien. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes des six groupes se qualifieront pour les huitièmes de finale.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation à l'occasion du premier anniversaire du coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a expliqué le contexte de ce coup de force, les actions en cours depuis et l'unité d'action nécessaire pour un Mali nouveau. Mais que pensent les Maliens de sa gestion du pays? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Mohamed Tanyoko.
Concrétisation de la volonté populaire, aboutissement, nouveau départ, refondation sont les mots forts employés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de son discours à la nation marquant l'an 1 du coup d'État du 18 août 2020.
Des hommes et des femmes se sont retrouvés pour exprimer leur volonté de rupture et de changement. Le peuple a répondu massivement à l'appel. L'armée nationale, votre armée ne pouvait rester dans l'attentisme. Elle a donc pris ses responsabilités.
Si le président de la transition estime que des efforts sont en cours pour sécuriser le pays, cela n'est pas de l'avis de certains citoyens qui estiment que la situation s'est plutôt dégradée.
Le problème de sécurité, l'insécurité est grande étape. L'insécurité a quitté le nord pour se retrouver actuellement à l'ouest et au sud du pays.
La transition ne démarre pas. C'est un recul total qui est là, quoi. Vraiment, nous ne comprenons pas.
Pour Foudié Magiraga, retraité en commune 5 du district de Bamako, il est trop tôt pour faire le bilan d'une transition venue remplacer un pouvoir qui, pendant 7 ans, a plongé le pays dans une crise sécuritaire profonde.
Nous attendons que maintenant, nous fassions un jugement. Tout le monde dit dans ces pays-là, on ne peut pas attraper ceux qui ont volé. Tout le monde voit aussi les juges, tout le monde. Et quand tu vois le salaire des fonctionnaires, tu sais que maintenant, vraiment, les salaires là, ça ne permet pas de faire certaines choses à la CIC.
Les chantiers pour refonder le pays sont immenses pour une transition, selon le jeune comptable Mousdouari. Les autorités doivent s'atteler, selon lui, à l'organisation des élections.
Tout nous, Maliens, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'ils essaient d'organiser les élections et partir. Parce qu'ils ne peuvent pas faire une refondation de l'État, qu'ils disent qu'ils sont là à faire une refondation de l'État. Pourquoi faire la refondation de l'État alors que rien ne marche, rien ne bouge? Donc nous ne comprenons pas ce qu'ils veulent. Nous ne comprenons pas. Nous, tout ce que nous voulons, c'est qu'ils organisent les élections et partir.
Si le calendrier électoral publié en avril dernier prévoit la tenue de la présidentielle le 27 février 2022, le récent discours du ministre de la Défense disant que le calendrier était à titre indicatif et ce jusqu'à nouvel ordre a semé le doute chez beaucoup de Maliens quant au respect des échéances électorales. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, un an après le coup d'État, beaucoup de Maliens craignent le départ prochain des soldats de l'opération Barkhane. Bamako craint de partager le sort de Kaboul. Les talibans patrouillent, mais beaucoup s'inquiètent de l'incertitude politique après la chute du gouvernement afghan. Suivons le reportage de Rahim Gul Sarwan et Ahmad Javid Arzoman à Kaboul. Le récit est de John Lyndon.
Des talibans conduisant un véhicule de police dans la ville de Kaboul, c'était du jamais vu depuis près de 20 ans. Trois jours après sa chute aux mains des talibans, la capitale afghane est calme. Patson, un résident de Kaboul.
En général, la situation est très bonne. Je suis un habitant de Kaboul, je ne suis pas inquiet et les gens ne devraient pas s'inquiéter.
Les talibans sont entrés à Kaboul dimanche après la fuite du président afghan Ashraf Ghani et la chute de son gouvernement. Le groupe djihadiste affirme que ses combattants sont entrés dans la ville pour assurer la sécurité, comme l'affirme un de leurs combattants.
Thank God, the security is provided.
Dieu merci, la sécurité est assurée, il n'y a pas de problème, les moudjahidines de l'Émirat islamique patrouillent partout.
Cependant, les habitants de Kaboul constatent quelques problèmes. Haji Bismillah explique.
Thank God, the security situation.
Dieu merci, la situation sécuritaire est normale. Les gens sont confrontés à de nombreux problèmes. Il y a des voleurs de voitures, ils doivent assurer la sécurité.
Malgré les assurances des talibans, certains habitants sont préoccupés par l'absence de gouvernement. Youssouf de l'ethnie Pashtun habite à Kaboul.
People are out on the streets.
Les gens sont dans les rues, il n'y a pas de problème. Ils ont annoncé que les gens peuvent reprendre une vie normale et qu'ils peuvent travailler. Mais il y a de la peur et de l'incertitude.
Les sections locales souhaitent que les services gouvernementaux reprennent le plus vite, selon Abdul Samad, un autre résident.
La seule préoccupation des gens, c'est le chômage. Les talibans devraient annoncer un gouvernement pour que les gens retournent au travail.
Les talibans ont annoncé mardi une amnistie générale pour les responsables gouvernementaux, les exhortant à reprendre le travail. Les Émirats arabes unis ont accueilli l'ex-président afghan Ashraf Ghani et sa famille pour des raisons humanitaires après sa fuite de Kaboul. Ashraf Ghani avait déclaré dimanche avoir fui son pays pour éviter un bain de sang. Les Émirats arabes unis l'ont accueilli pour des considérations humanitaires, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué.
En 2002, Ken Farabo de la VOA, alors un reporter auprès de l'armée américaine, a interviewé de nombreux soldats américains lors d'une visite en Afghanistan. C'était au début de ce qui sera une présence militaire de près de 20 ans. Avec le retour des talibans au pouvoir, Farabo a recueilli l'avis de certains militaires qu'il avait rencontrés à l'époque et qui sont devenus des vétérans de la plus longue guerre jamais menée par les États-Unis. Le point avec Nanit Talani.
Alors qu'il regarde à la télévision ce qui se passe en Afghanistan depuis sa maison dans le Missouri, Steve Hutcherson, vétéran de la garde nationale aérienne des États-Unis, est sous le choc.
C'est difficile à regarder. Vous avez vu les vidéos de la chute de Saigon. C'est étrangement similaire. Nous avons dépensé tellement en vies humaines et en trésors nationaux pour conserver ce que nous avons. Puis vous voyez tout s'en aller en un éclair.
Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan est un revers personnel pour Hutcherson. Il faisait partie de la première vague de soldats américains envoyés en Afghanistan au début de 2002. Il était contrôleur aérien à l'aérodrome de Bagram, coordonnant les avions alliés dans leur mission de combat et de soutien visant à éliminer les terroristes. Il pense que les États-Unis ont atteint leur objectif.
Le résultat est que nous sommes en sécurité depuis 20 ans, mais l'effort des États-Unis pour construire une nation afghane démocratique était une guerre impossible à gagner.
Rhonda Lawson a aussi servi en Afghanistan et elle a assisté à la chute rapide de Kaboul depuis son domicile du Maryland. Il y a près de 20 ans, elle servait à l'aérodrome de Bagram. Elle était sous-officier pour un détachement mobile des affaires publiques de l'armée américaine. Elle a été témoin des efforts des États-Unis pour former une nouvelle armée nationale afghane.
Cela change un peu mon point de vue quant à savoir si l'armée nationale afghane était prête à défendre son propre pays. Et je ne sais pas s'il s'agissait de ne pas se battre ou d'échouer, mais que les talibans aient pris le contrôle aussi vite qu'ils l'ont fait, c'est assez choquant.
Dan Milbauer est un autre vétéran de l'armée américaine. Il a servi dans différentes unités militaires lors de deux déploiements en Afghanistan.
Un endroit comme l'Afghanistan a toujours été problématique. Les Soviétiques ont essayé. Nous avons essayé pendant 20 ans, mais si les talibans reviennent au pouvoir, il y a une raison à cela.
Alors que les talibans semblent désormais contrôler l'avenir incertain de l'Afghanistan, l'exode de ceux qui cherchent la sécurité ailleurs et qui ont encore les moyens de fuir se poursuit.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le retour triomphal des talibans à Kaboul 20 ans après en avoir été chassés par l'armée américaine. La prise de la capitale afghane avant même la fin du retrait américain a surpris Washington et ses alliés occidentaux. L'administration de Joe Biden, sous le feu des critiques, défend sa décision de retirer les troupes américaines suite à un accord à Doha entre les talibans et les États-Unis sous Donald Trump. Quelles sont les conséquences du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan pour la région et les États-Unis? Nous allons débattre de tout cela ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA.
Deux mois après avoir levé les restrictions anti-Covid, après que 70% des adultes ont reçu la première dose de vaccin, la ville de New York, confrontée à une hausse des cas de Covid, a été obligée de faire marche arrière et réviser la tendance à l'assouplissement. Dilly Dico pour les détails.
Le nouveau mandat de la ville de New York rendant obligatoire la présentation d'une preuve de vaccination pour dîner dans un restaurant, se rendre dans une salle de sport ou assister à un spectacle a pris de court de nombreux New-Yorkais. Écoutons Alex, un étudiant en gastronomie.
Je viens d'apprendre aujourd'hui que le vaccin est nécessaire pour aller dans les restaurants et les bars. Je ne sais pas vraiment ce que je pense à ce sujet, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on ne devrait pas avoir besoin d'un vaccin pour s'asseoir dans un bar, parce qu'en fin de compte, vous ne savez pas vraiment comment ce vaccin fonctionne, vous voyez?
Salma, une commerçante, semble se résigner à suivre la mesure.
Je ne veux pas me faire vacciner, mais je me dis, ok, je suis là et je veux profiter de la ville. Du coup, j'ai besoin d'avoir une preuve de vaccination. C'est comme s'ils vous poussaient à vous faire vacciner.
Pour Alpha, un comptable d'origine guinéenne, cette mesure est une surprise.
Je n'en avais aucune idée. Je ne le savais pas. J'ai l'impression que ce serait une sorte de discrimination envers les gens, car les gens ne veulent pas se faire vacciner. C'est leur choix. Alors, il n'y a aucune raison pour que l'État intervienne en différenciant ceux qui veulent être vaccinés et ceux qui ne le veulent pas.
La mesure, la première du genre dans le pays, établit une distinction entre personnes vaccinées et non vaccinées dans l'accès aux activités et aux loisirs. Lors d'une conférence, le maire de New York, Bill de Blasio, a ciblé la jeunesse.
Nous savons que cette mesure va toucher des centaines de milliers de personnes, les convaincre qu'il est temps à nouveau, en particulier les jeunes, de se faire vacciner. Nous savons que l'une des principales raisons pour lesquelles cette mesure fonctionnera est qu'en tant que New-Yorkais, nous aimons nos arts, notre culture, nos divertissements, nos restaurants. Nous aimons toutes ces choses, elles font partie de notre identité. Alors savoir que la façon dont vous pouvez participer à ces activités est de se faire vacciner va inciter les gens à le faire.
Certains, comme ce visiteur du Nevada, appelé Liam, apprécient positivement l'imposition du pass vaccinal.
Je travaille dans un restaurant à Las Vegas. Je pense que ce serait une bonne chose d'avoir cette règle, d'encourager plus de gens à se faire vacciner et à faire quelque chose au lieu de ne rien faire.
Une opinion que partage Marcy, une infirmière retraitée.
Cette pandémie n'est pas une blague. Et si nous pouvons nous protéger du mieux que nous pouvons, c'est une bonne chose. Certaines personnes ne sont pas vaccinées, mais elles prétendent qu'elles le sont. Du coup, en devant montrer une preuve, vous êtes rassurés qu'elles ont eu leur vaccin et tout le monde se sent plus en sécurité.
Dilly Dico, VOA Afrique, New York.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges et Léonard Sagnot et Michel Joseph. Eric Manelakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24. Restez branchés.